Vous jouez aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Le soleil brille dans le ciel et la lune dans vos oreilles sur 93.8. C'est Radio Pleine Lune, Onde Femme, Radio Zone. Notre numéro de téléphone, c'est le 50 40 51 41 059 depuis Genève. Dans quelques instants, ce seraient les informels, les nouvelles de la pleine lune, suivies des coups de cœur de Marjolaine et un large programme musical. Restez à l'écoute, c'est 93.8 MHz, c'est la lune dans vos oreilles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Onde Femme, Radio Zone, nos nouvelles. Grave pollution au CERN dénoncée par des organisations écologistes. Depuis plus d'une année, plusieurs organisations écologistes à Genève, dont Contratome, le WWF et Greenpeace, entre autres, ont été alertées de grave pollution au CERN. C'est une personne qui est venue se plaindre d'avoir été irradiée. À ce propos, les organisations écologistes avaient demandé à la CRIRAD, une organisation indépendante de dosage qui est située à Valence, de faire quelques mesures. Aujourd'hui, dans une conférence de presse, la CRIRAD rendait son verdict. Plusieurs mesures radiométriques ont révélé en plusieurs points du site du CERN et en dehors des zones contrôlées des valeurs de débit de doses anormalement élevées. Des déchets radioactifs ont été trouvés dans des poubelles banalisées destinées à être collectées par une société extérieure chargée de l'évacuation des ordures du CERN. Elles auraient fini au chenevier. Certains objets sont très irradiants et présentent des niveaux d'activité élevés, parfois très nettement supérieurs au seuil d'exception fixé par le CERN. D'autre part, par le biais de la sous-traitance, le CERN a pu affecter des travaux très pénalisants comme le démontage, le découpage et le compactage de matériel radioactif, du personnel non qualifié travaillant avec un équipement insuffisant et sans évaluation correcte des doses reçues. Seule l'exposition externe est prise en compte. Les incorporations des radionucléides par inhalation notamment ne sont pas comptabilisées. Lors de cette conférence de presse, la personne qui a déclenché toute l'affaire est venue en personne parler de son calvaire. Il s'agit d'une victime du CERN. Il se sent en sursis, sous morphine et cortisone, avec un poumon en moins. Pierre ne se fait guère d'illusions et pourtant il n'a pas encore 50 ans, une femme et deux enfants très jeunes. Mais il a travaillé 15 ans au CERN. C'est là que tout a mal commencé et mal fini. D'abord intérimaire, puis employé d'un sous-traitant et loué au CERN, il est nommé agent de radioprotection alors qu'il n'a qu'une formation de serveur dans un bistrot. À ce titre, il gère l'élimination des déchets radioactifs sans avoir les connaissances scientifiques nécessaires et après une formation lacunaire, il manipule, découpe et scie des années durant des centaines de mètres cubes de tôle, tubes et autres matériaux radioactifs dont certains sont en d'amiante. Quand la maladie est découverte, il est trop tard. Pourtant, l'examen des radiographies périodiques de la médecine du travail n'avait rien décelé d'anormal, malgré un cliché parfaitement révélateur. Un véritable calvaire commence alors lorsqu'il s'agit de faire admettre la maladie professionnelle, car le CERN jouit d'un statut tout à fait particulier. C'est une organisation intergouvernementale scientifique qui bénéficie de privilèges et d'immunités extraordinaires. Le cas de Pierre, qui n'est certainement pas unique, demande à être soigneusement examiné par des instances indépendantes. Les premiers résultats des tests effectués spontanément par un laboratoire indépendant sur les nuisances du CERN sont suffisamment éloquents pour exiger d'être approfondis. Et c'est d'ailleurs ce que demandent les différentes organisations écologistes qui ont appelé à la conférence de presse, c'est que véritablement une étude complète sur le site du CERN qui permet d'établir un état des lieux global soit faite. Étude portant tant sur la contamination éventuelle du site que sur les mesures de gestion des déchets radioactifs ainsi que sur les dispositions prises pour la protection des travailleurs concernés.
Thank you.
10 ans après la catastrophe de Tchernobyl, des enfants sont de plus en plus souvent malades. Les enfants nés à l'époque de l'accident dans les zones contaminées souffrent de plusieurs formes de cancer, entre autres du cancer de la thyroïde. C'est le docteur Elena Bolchova qui travaille dans une clinique où elle soigne quelques 400 enfants et adolescents ukrainiens souffrant de cancer de la thyroïde à la suite de la catastrophe de Tchernobyl. Les experts s'accordent pour dire qu'en Ukraine, en Biélorussie et en Russie, la prolifération de cette maladie parmi les jeunes originaires des zones contaminées est une conséquence directe de la catastrophe. C'est une pathologie qui a été multipliée par 10 et dans certaines régions proches de la centrale nucléaire par 60. Le problème, c'est que le traitement du cancer coûte très cher. Or, l'État ne prend pas les frais en charge et peu de familles ont les moyens de soigner les enfants. Déjà 40 enfants sur 60 sont morts parce qu'ils n'ont pas pu recevoir aucun soin. Par ailleurs, d'autres maladies d'origine psychologique ou en tout cas de troubles psychologiques sévissent tout autour des zones contaminées, à tel point qu'on les appelle les Tchernobyliens ou les condamnés à mort. Ce sont les personnes qui ont été gravement irradiées ou qui vivent tout près de la centrale. En Ukraine, plus de 2 millions de personnes, dont 540 000 enfants, vivent dans des régions touchées par les retombées radioactives. Plus de 12% des terres arables du pays sont toujours contaminées. Amnesty International lance des pétitions au secours de Amnesty International lance une pétition adressée au président de la République du Mexique, Ernesto Zedí, et au Ponce de León sur le sort d'une jeune femme, Aurora Nazaria Rienta, 15 ans, qui le 2 novembre 1995 a été violée par 3 policiers dans la ville de l'État de Pueblo. Aurora Arrieta appartient à la communauté indienne Nahua de San Miguel. Cet atroce viol a provoqué chez cette jeune fille des contusions et des déchirures. De plus, elle a été menacée de mort si elle disait quoi que ce soit. Ses employeurs ont porté plainte devant le représentant du ministère public de la région. Un médecin a certifié le viol dans la soirée. La plainte a été officialisée le jour suivant par Aurora et son père. Les 3 policiers ont proposé à Aurora et à sa patronne de leur donner de l'argent pour qu'elles retirent leur plainte. En dépit de ces plaintes, les policiers n'ont pas été arrêtés. On ne sait pas où ils se trouvent. Amnesty International demande donc au président du Mexique que tout soit fait pour que ce cas puisse être jugé. Autre pétition adressée par Amnesty International au ministre de la Justice du Rwanda, à Madame Marthe Mukamurenzi, ministre de la Justice. Cette pétition parle également des viols commis lors du génocide au Rwanda, où 500 000 à 1 million de personnes, dont la plupart appartenant à l'ethnie Tutsi, ont été tuées. Durant cette période, des milliers de femmes et de jeunes filles ont également été violées par les membres de la milice et les militaires de l'ancienne armée gouvernementale. Après le génocide, de nombreuses femmes violées ont été rejetées par leurs familles. C'est le cas d'Athanasie Kakanzi, qui travaillait comme enseignante dans un collège. Son mari a été tué, elle-même a été violée pendant une période de 3 mois par les miliciens et des militaires de l'ancienne armée. Elle a finalement été laissée pour morte sur l'emplacement d'une fosse commune. Elle souffre depuis de graves problèmes et de syphilis. C'est aussi le cas de Solange, qui a 16 ans. Suite aux tortures et aux viols que les miliciens lui ont fait subir, elle est paralysée de la taille aux pieds. Malheureusement, les viols continuent sous le nouveau gouvernement. C'est le cas de Marie, qui a été violée depuis 1995 dans une cellule de la prison de Boutaré par des gardiens qui disaient vouloir venger leur mère et sœur violée pendant le génocide. Amnesty International qui fait campagne pour que les auteurs du viol commis durant le génocide soient déférés à la justice. « En France, le droit à l'avortement se heurte avant tout à des manques de moyens. Dépénalisé en France depuis la loi Veil de 1975, l'interruption volontaire de grossesse apparaît moins menacée par les actions des commandos anti-avortement que par l'insuffisance des moyens que les hôpitaux publics consacrent aux centres d'orthogénie. Mal rémunérés, les praticiens qui sont employés doivent avoir une âme de militant et la relève fait défaut. Les établissements publics étant débordés, les femmes continuent à devoir se rendre dans le secteur privé, dont certains établissements pratiquent des avortements sans les déclarer. Une chose cependant est intéressante en France, c'est que finalement, les actions des commandos anti-avortement ont échoué, en tout cas dans leur volonté de fragiliser la loi. Car depuis l'application de la loi Neyers de 1993, il existe le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Depuis ce moment, ces commandos ont été attaqués en justice par les hôpitaux qui en ont été victimes. La jurisprudence qui se dégage de ces décisions de justice est-elle cohérente? La question mérite d'être posée en tout cas. À une exception près, cependant, toutes les décisions de justice rendues jusqu'à là ont abouti à la condamnation des actions des commandos. Seul le tribunal correctionnel de Paris a, en juillet 1995, relaxé les membres du commando qui s'étaient introduits sous prétexte que, face à un grave danger, on peut commettre quelque chose d'illégal. Mais le ministre Toubon, face à l'émotion soulevée par ce jugement, a fait appel contre cette décision. Le 15 février 1996, la Cour d'appel de Paris a condamné finalement ses membres du commando à des amendes. Donc finalement, tous les jugements vont dans le même sens. Les activistes anti-avortement ont donc échoué dans leur volonté de fragiliser la loi Veil, puisqu'ils n'ont pas pu faire qu'il y ait une jurisprudence pour les justifier. Sur les bancs des prévenus, les membres des commandos anti-avortement revendiquent un nouveau type de délinquance, celui d'objecteur de conscience passé à l'acte. En procès, leur défense est orientée vers trois directions. Premièrement, les avortements n'étaient pas légaux, ils n'entraient même pas dans le cadre de la loi Veil. Deuxièmement, ils assurent que le fœtus est un enfant à naître et donc une personne. Enfin, ils se déclarent agir en état de légitime défense pour le compte des embryons. En tout cas, une chose est sûre, depuis plusieurs années, le nombre des avortements baisse régulièrement en France. Des parlementaires néerlandais réclament une loi autorisant le mariage homosexuel. Tout est parti d'Annelise van der Stol, qui est élue à la seconde chambre du Parlement en Hollande et qui milite depuis des années en faveur du mariage entre personnes d'un même sexe, n'ayant d'ailleurs jamais caché le fait qu'elle est elle-même homosexuelle. Annelise van der Stol, qui fait partie des 81 députés qui ont voté pour une motion réclamant au gouvernement de préparer au plus tard, pour août 1997, un projet de loi autorisant l'union maritale entre personnes du même sexe. Ce même jour, un deuxième texte a été majoritairement adopté, demandant au nom du droit à une protection juridique des enfants élevés par deux individus du même sexe, la régulation du droit à l'adoption par des couples homosexuels. L'Église, bien sûr, s'est élevée contre ce qu'elle considère comme un sacrilège. Les députés hostiles à l'initiative ont rappelé qu'une fois encore, à l'exemple de la drogue, les Pays-Bas adopteraient une position sur une question de société allant beaucoup plus loin que le reste du monde en cas d'adoption d'une telle loi. Quoi qu'il en soit, le gouvernement travaille une solution intermédiaire. À l'heure actuelle, les couples homosexuels ont la possibilité de s'enregistrer devant un grand nombre de municipalités comme vivant sous un même toit, mais cette faveur, à la discrétion des élus locaux, n'a qu'une valeur symbolique. Le gouvernement souhaite l'étendre à l'ensemble du pays et surtout y joindre la plupart des droits et devoirs auxquels sont habitués les couples hétérosexuels. Héritage, obligation des soins mutuels, versement d'une pension alimentaire en cas de séparation. Parallèlement, le secrétaire d'État, qui rejette la possibilité pour un couple homosexuel d'adopter des enfants à l'étranger, a présenté un projet de loi permettant sous condition l'adoption par un homosexuel d'un enfant néerlandais. « Au Japon, Bill Clinton a présenté des excuses officielles pour le viol de la jeune fille à Okinawa. Le Japon a eu droit aux excuses très solennelles du président des États-Unis pour le viol d'une fillette à Okinawa en septembre par trois GIs américains. Le peuple américain regrette profondément la violence horrible dont a été victime la jeune écolière, a dit Bill Clinton. Les trois violeurs ont été condamnés à 7 ans d'emprisonnement. Mais la tension qui règne au Japon sur la question des bases américaines n'a pas baissé pour autant. Plus d'une grande manifestation réunissant plusieurs milliers de personnes a défilé à Tokyo pour réclamer la fermeture de toutes les bases américaines au Japon. En France, un comité d'éthique n'exclut pas la stérilisation des handicapés mentaux. Le comité national d'éthique a rendu public un avis sur la contraception chez les personnes handicapées mentales dans lequel il n'exclut pas le recours à la stérilisation de ces personnes. Selon le comité qui prône l'utilisation de méthodes réversibles, la stérilisation est parfois présentée comme une option contraceptive bien adaptée au cas particulier de la personne handicapée mentale. Rappelant cependant les lourdes charges idéologiques qui pèsent sur ce débat, les sages insistent sur les difficultés que pose dans un tel contexte la notion de consentement libre et éclairé qui est nécessaire pour une stérilisation. Pour sa part, l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales s'est félicitée de cet avis qu'elle considère nuancé et honnête. Cependant, cette décision, bien sûr, soulève des souvenirs assez terribles puisque la stérilisation sur les handicapés est une pratique assez ancienne. Elle a été largement pratiquée à travers le monde, tout particulièrement durant la première moitié du XXe siècle. Elle a souvent été mise en œuvre chez des personnes étiquetées comme socialement inaptes, les pauvres, bien sûr, les criminels, les alcooliques, les malades mentaux. Ces mesures étaient fondées sur la conviction qu'un certain nombre d'états et de conduites étaient pathologiques et transmissibles sur un mode héréditaire. Jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ces mesures furent défendues en France, notamment par des scientifiques de renom. En Allemagne, après l'arrivée au pouvoir de Hitler, une loi a institué la stérilisation facultative ou même obligatoire de certains individus frappés de tares héréditaires. Un certain nombre de pays ont aujourd'hui encore des dispositions législatives autorisant cette pratique. C'est notamment le cas de l'Afrique du Sud depuis 1975 et de la Chine qui, en novembre 1994, a adopté une loi destinée à, je cite, « améliorer la qualité de la population des nouveaux-nés ». En Suisse et à Genève, le front de gauche s'organise contre la loi sur le travail. Il ratisse d'ailleurs un peu à sa droite. Le comité référendaire contre la loi sur le travail s'est constitué, ne regroupant pas que la gauche traditionnelle. Il profitera bien sûr du 1er mai pour lancer sa campagne. Il va faire jour jusqu'à 11 heures du soir. C'est ce que finalement a décidé le Parlement fédéral, qui a réussi une prouesse que même le passage à l'heure d'été n'avait pas rendu possible. En effet, au yeux de la nouvelle loi sur le travail, votée à Berne en mars, la journée de travail pourra commencer à 6 heures du matin et durer jusqu'à 23 heures du soir, sans être du travail de nuit. Ce sera toujours du travail de jour, donc sans compensation. Le comité référendaire genevois, chargé d'organiser la récolte des signatures, a donc pris naissance. Outre tous les syndicats que compte la République, les partis politiques de gauche et les Verts, il y a d'autres forces qui ont adhéré, le groupe chrétien social du Parti démocrate, la jeunesse ouvrière chrétienne et la pastorale pour le monde du travail d'obédience catholique. Là, outre l'extension donc de la plage horaire dite de jour, autorisant le travail en soirée sans compensation, la révision de la loi supprime l'interdiction d'employer des femmes la nuit pour travailler dans l'industrie au nom de l'égalité. Et pour cette activité nocturne, aucune contrepartie ne pourra désormais être exigée, ni en temps libre, ni en argent. On travaille, mais ça y est, pour rien. Dans un même esprit de flexibilisation des horaires, les commerces pourront ouvrir leurs portes 6 dimanches ou jours fériés par an sans demander d'autorisation et on pourra travailler 500 heures supplémentaires pour rien sans demander d'autorisation. Pour le comité référendaire, cette loi prévue à l'origine pour protéger l'ensemble des travailleurs a donc été violée, vidée de tout ce qui contrarie la liberté de l'économie. Elle nécessite donc un rejet. C'est la raison pour laquelle un référendum est lancé. À ce propos, une étude du Journal of Occupational and Environmental Medicine montre qu'une femme qui travaille avec des horaires tournants, donc la nuit aussi, met jusqu'à deux fois plus de temps que d'autres à concevoir un enfant. Les raisons de ce délai ne sont pas très claires. Peut-être que simplement elle ne rencontre jamais son mari. Mais selon la revue, le retard à la conception n'affecte pas la capacité reproductive de la femme à long terme. Plus de 1000 femmes ont été examinées dans 7 pays européens. De 10 à 15% des couples doivent attendre 12 mois ou davantage avant que leur rapport sexuel aboutisse à une fécondation. Selon le médecin qui a dirigé cette étude, le travail tournant occasionne un délai supplémentaire de 50 à 100%. Des études précédentes ont lié les horaires tournants à des accidents de grossesse comme la fausse couche ou l'accouchement d'un enfant de points inférieurs à la normale. C'est donc au 1er mai, au cortège du 1er mai, que cette pétition sera lancée. Bien sûr, le cortège tout entier, ou sa grande partie, sera tourné vers cette revendication principale contre cette loi, cette révision de la loi sur le travail et l'extension du travail de nuit. En d'autres termes, la révision donc sera dans le collimateur des syndicats. La fête constituera le premier moment de la récolte des signatures. Le 1er mai, donc, ça commencera à 11h30 à la Pierre, sur la plaine de Plainpalais, une commémoration. Et puis, à partir de 14h, le cortège se forme sur le boulevard James Fazi et puis partira vers les bastions où toute la journée où il y aura des stands à manger, de la musique, etc. Pour terminer, une page sportive. Eh bien oui, monsieur l'arbitre est devenu une femme. Le dernier match de Paris Saint-Germain-Martigues a été arbitré par une femme. C'est la première fois dans l'histoire du football français qu'une femme fait partie du trio arbitral d'un match de première division. La désignation de Nelly Viennot comme juge a d'abord surpris certains dirigeants du club qui se sont émus d'un choix de novice et puis surtout une femme. Mais finalement, elle est passée. L'esquisse de querelle phallocrate n'a pas entamé la joie de la jeune femme qui affirme que je comprends les réserves, les gens n'ont pas encore l'habitude de l'arbitrage féminin, mais tout cela a pris bien trop d'importance. Pour moi, c'est un match comme un autre, sauf qu'il est plus médiatisé. Je m'y prépare sans me poser de questions. La jeune femme a donc arbitre depuis 3 ans. Elles sont que 3 arbitres en femmes. Elles sont que 3 femmes arbitres en France. Il y a dans le monde seulement 600 femmes en noir. En tout cas, son rang lui vaut une sélection pour Atlanta où elle sera la seule représentante du corps arbitral français au tournoi olympique. Son problème, c'est qu'elle a dû recoudre tous les uniformes. Ils sont beaucoup trop grands pour elle. Et je termine avec le cochon de la semaine. Je l'ai trouvé, c'est un vieux cochon, puisqu'il s'agit du scientifique Conrad Lorenz. Conrad Lorenz qui a étudié le comportement des animaux, qu'il décrit dans un livre, Tous les chiens et tous les chats, qui est paru déjà en 1970. Vous voyez, j'ai pris du temps pour le trouver. Alors au début, il essaie de raconter un peu de façon romancée comment le chat et le chien ont été domestiqué, le chien autour des 20 000 ans avant Jésus-Christ, avant notre ère. Et voilà, il raconte, il décrit un groupe d'hommes des cavernes qui marchent. Et voilà comment il décrit cette troupe. Je vous cite. Il se compose de 5 adultes, le reste n'étant que femmes et enfants. Et oui, vous l'avez compris, le troisième âge, c'est pas la vieillesse, c'est les femmes entre les hommes et les enfants. Et je termine avec quelques petits rendez-vous avant que Marjolaine vous ouvre son cœur, qui vu tous les papiers qui s'agitent doivent être grands comme ça, c'est normal, avec ce beau soleil et cette belle lune dans les oreilles, comme toujours. Alors, pour vous annoncer que la campagne contre les mines antipersonnelles continue, tant que la conférence à l'ONU continuera, plusieurs manifestations sont prévues, entre autres le vendredi 26 avril dès 18h et le samedi 27 avril toute la journée, avec des vidéos qui seront présentées à la maison du Grutli. C'est donc le théâtre. Donc toute la journée des vidéos, un film aussi, le lendemain de guerre. À 19h, il y aura une simulation de déminage d'un terrain de mine à la plaine de Plainpalais, samedi après-midi. Donc ce vendredi et ce samedi, l'action contre les mines antipersonnelles continue. Également ce soir, dépêchez-vous, à 20h, une conférence sur le thème « Culture palestinienne, témoin de l'identité d'un peuple ». C'est l'aide sanitaire suisse aux Palestiniens, le Centre de photographie de Genève, la commission d'information de la Fédération genevoise de coopération qui vous invite à cette conférence avec projection. Le conférencier est Rafik Khoury, économiste représentant du Croissant Rouge en France. Cette conférence, qui a lieu donc à 20h, prendra place à la salle Fonction Cinéma, également au Grutli, c'est la 16 rue du Général Dufour. Et puis, peut-être que Marjolaine vous en parlera, mais le Centre F Information fête ses 15 ans et pour cela, vous invite à un grand éclat de rire avec un trio vocal féminin, Les Acoustiques. Alors, c'est le vendredi 26 avril à 20h30, c'est au Forum Mérin, mais Marjolaine vous en parlera sûrement. En tout cas, 10 billets sont offerts par le courrier. Vous pouvez téléphoner à Genève, 809 55 55, pour obtenir ces billets. C'est le 26 avril, le trio féminin Les Acoustiques. Voilà, les informels se terminent ici. Marjolaine prépare son cœur. À tout de suite.
Überdrüssig dieses bergigen Landes auf der Oskava einschiffen. Die Anfangsschwierigkeiten mit einigen der Schifferjungs waren schnell überwunden. Und da wir unseren Mat für einen besonders guten Schwimmer hielten, warfen wir ihn über Bord. Seither driften wir auf den Weltmeeren. Das Leben kann wundervoll sein.
Blue is blue and how are you? 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 Oh, oh, oh.
Tag. Was ist denn das für ein schöner Sonntag? Was ist denn das?